Louis Bergot. Le roman de Miro, Chien de chasse. Première partie, chapitre 9. Sur le conseil motivé de Philomène, Lysée se résolut à enfermer Miro, chaque fois qu'il ne pourrait surveiller efficacement ses faits et gestes. Car, chez les animaux comme chez les humains, les premiers actes déterminent toujours des habitudes, et d'autant plus tyranniques chez les premiers que les sens ont plus de part à leur création. De même qu'une vache qui a découvert un passage à travers une haie essaiera, chaque fois qu'elle en aura l'occasion d'y passer à nouveau, de même, Miro ne reverrait pas de lapin sans éprouver le vif désir de les faire encore tourner en rond comme au premier jour. Et les poules avec lui n'auraient, elles aussi, qu'à bien se tenir. Les raclées et corrections qu'il avait reçues à ce sujet ne seraient pas suffisantes pour l'empêcher de recommencer. Et cela se conçoit aisément, car à l'idée de lapin et de poule s'associaient bien plus vivement en lui les idées de plaisir, de jeu, de course, de lutte, de capture et de repas que le souvenir de la rossée subie pour ses méfaits. Le premier acte venait de lui, était actif et quasi volontaire. Le second n'était que passif et ne pouvait se rattacher au premier que par des liens très ténus, dont le plus fort était celui de la consécutivité. Encore, les coups de pied dont la guélotte sans raison l'avait gratifié précédemment ôtaient-ils toute valeur éducatrice à ce châtiment. C'est pourquoi, dès qu'il aperçut une poule, il ne songea plus qu'à lui donner la chasse. Pour l'instant, claquemuré dans sa remise, sur sa botte de paille, parmi les objets hétéroclites que son activité avait rassemblés, il n'aspirait qu'à un but, sortir. Mais Lysée n'était point là. La porte de l'écurie, solidement réparée par ses soins, ne semblait plus permettre aucune incursion de ce côté. Restait la rue, à laquelle on ne pouvait accéder qu'en rongeant la porte qui donnait sur la cour ou en escaladant la fenêtre. Et cette ouverture se trouvait percée à 5 bons pieds au-dessus du sol. Miro, prompt à l'action, n'hésita point et chercha d'abord à atteindre la fenêtre. Il tenta plusieurs élans, inutiles. Accrocha tout de même une fois le bout de ses pattes au rebord intérieur de l'embrasure, mais, entraîné par son poids, retomba lourdement à terre. Là de cet exercice, il attaqua la porte. Elle était de chêne et massive, mais peu importait à Miro l'essence du bois dans laquelle on l'avait taillée. Un travail qui, à un humain raisonnable, paraît colossal, démesurément long, impossible, et le découragerait devant l'aquabon, n'arrête pas un chien qui lutte pour sa liberté. Un chien jeune qui a besoin de mouvement et ne sait rien encore ou presque des contraintes domestiques. Miro mordit le coin gauche du bas de la porte, juste à l'endroit où il sentait quelques filets d'air glisser entre le seuil et le cadre de bois. Dure besogne, car c'est par côté surtout qu'un chien peut mordre et ronger efficacement. La petitesse du point attaquable le gênait énormément. Il fallait qu'il travaillât avec les dents de devant, les incisives. Et pour ce, trousser les babines et garer son nez, cet organe tellement sensible et si délicat, chez le chat comme chez le chien, qu'il n'y faut jamais toucher si l'on ne veut point les faire souffrir et diminuer leur admirable flair. Miro, cependant, commença et mordilla la coupante arête, amollissant par la salive et rongeant par les dents. Au bout d'une heure, il en avait à peine ébréché 1 centimètre lorsqu'il entendit claquer la porte de la cuisine. Prudent, il quitta le chantier et regagna sa botte. Il savait déjà, ou plutôt il sentait, que ce qu'il faisait était opposé à la volonté des maîtres auxquels il devait obéissance. S'ils eussent été là, il se fût abstenu. En leur absence et loin du châtiment, il s'appliquait, tous instincts débridés et tendus, à contrecarrer une décision qu'il jugeait injuste. Le bruit entendu lui rappelant que le manche à balai est un instrument redoutable, il s'était arrêté. Mais dès qu'il ne perçut plus rien, il retourna vivement besogner. Accroupi, il travaillait avec tant d'ardeur, tout à son idée, qu'il n'entendit pas la porte s'ouvrir une deuxième fois. Il bondit en arrière en hurlant sous le coup de baguette que la guelotte furibonde venait de lui flanquer, tandis qu'elle repartait, beuglant à pleine gorge. « Viens voir maintenant ce qu'il fait. Il est en train de ronger la porte de dehors. » Lisée arrivant, ne put que se rendre compte du dégât. Évidemment, on ne pouvait nier. Il para la querelle en déclarant qu'il allait recouvrir l'arête et le coin attaqué par une bande de fer blanc, ainsi qu'il avait déjà fait pour la porte de l'écurie. Il s'y mit immédiatement et laissa Miro sortir et se promener dans la cour sous sa surveillance. Mais le braconnier avait l'œil, et dès qu'il voyait le chien écarter les narines en s'approchant d'une poule, il le rappelait bien vite au sentiment du devoir, prononçant son nom, Miro, sur un ton tel que l'animal, obéissant et craintif, revenait apeuré auprès de lui et lui léchait les mains et la figure pour témoigner sa soumission ou demander un pardon qui lui était accordé d'un hochement de tête à la fois amical et grave. Cela n'empêcha point que, le lendemain, un carreau de la croisée de la remise fut bel et bien cassé par le jeune chien, qui, ne pouvant plus s'attaquer à la porte, avait réussi, Dieu sait comment, à atteindre la fenêtre et à prendre par cette voie la clé des champs. Et 2 heures après, tous les gamins du pays cernaient Miro, qui venait de jeter l'épouvante et la terreur parmi le troupeau picorant des poules de la fémie, laquelle gueulait comme un putois qu'il lui en manquait 3 ou 4 et que ce sauvage-là lui en avait sûrement mangé une, puisqu'il avait encore les pattes rouges de sang. Le fait en lui-même était exact. Miro avait une patte ensanglantée. Il y eut une scène nouvelle entre la guélotte et la fémie Élisée qui rentrait, chacune des femmes voulant crier plus fort que l'autre. Les gamins, bientôt, ramenèrent le coupable, qui opposait la plus énergique résistance, se faisant littéralement traîner. Et le chasseur, alors, s'aperçut que son chien avait la patte coupée. Furieux à son tour, croyant qu'on avait voulu lui tuer son Miro, il se préparait, sans autre préambule, à gifler la fémie, lorsque sa femme, s'interposant à temps, lui apprit que c'était le chien lui-même qui s'était coupé en cassant la vitre de la fenêtre de la remise. Alors, riposta Lisée, qu'est-ce qu'elle chante, cette vieille déplumée? Ce n'est pas d'avoir mangé une poule qu'il s'est enseigné. Va les compter d'abord, tes gratteuses, et tu viendras grogner après. Renseignement pris, toutes les poules de la fémie se retrouvèrent. Il est vrai que dans cette affaire, s'il n'y avait pas eu de mort, ce n'était point de la faute à Miro. Cette fois, la guélotte ne tempêta point et n'invectiva personne. Fine mouche, profitant de l'expérience acquise, elle essaya de prendre son mari par la douceur. Lisée, agitée de sentiments contradictoires, ayant à la fois l'envie de corriger et de plaindre, lavait cependant avec de l'eau salée et pansait minutieusement la plaie du petit chien, qui se plaignait et aurait bien voulu qu'on le laissât se lécher tout seul. « Écoute, Lisée, disait la femme, tu vois bien que nous ne pouvons pas garder cette bête. Elle va nous faire arriver toutes sortes d'histoires. Voilà déjà pour plus de 6 francs de poule qu'il nous coûte. Et maintenant qu'il a commencé, quand veut-il s'arrêter ? Je ne parle pas pour les nôtres, mais pour celles des voisins. Tu auras beau les payer plus cher qu'elles ne valent, ils t'en voudront quand même et croiront t'avoir fait un grand cadeau en acceptant ton argent. » « Je t'en supplie, débarrasse-t'en, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, crois-moi. Tue-le, fiche-lui dans les côtes une bonne cartouche de 4. Puisque tu dis que tu ne peux pas le vendre, et que ce serait faire injure à Pépé et au gros. Ce ne serait pas plus propre de le tuer, il est jeune, on peut le corriger, intermoyaliser. Fermement décidé au fond à ne pas s'en séparer. Attendons un peu, je vais avoir l'œil sur lui dorénavant. Et dès que je le verrai loucher du côté des Gélines, je lui flanquerai la correction pour bien lui faire comprendre qu'il n'y doit pas toucher. Philomène arrivait, émue par la rumeur publique et les bruits contradictoires, qui affirmaient, d'une part, que Miro avait étranglé toutes les poules de la fémie, de l'autre, que quelqu'un, on ne disait pas qui, lui avait tranché une patte d'un coup de serpe. Lisée remit les choses au point, et Philomène réfléchit. « Mon vieux, explosa-t-il sans autre préambule, cette histoire-là est bien embêtante. Dès qu'il manquera une poule quelque part, tu peux être sûr qu'on accusera ton chien. Et il aura beau être innocent, tu pourras prouver qu'il n'est pour rien là-dedans, que ce n'est pas possible. On voudra absolument que ce soit lui qui ait fait le coup. J'en connais même qui seraient assez fripouilles pour zigouiller les poules du voisin, ou même les leurs, les boulotter, et venir ensuite accuser ton chien du massacre. Tu vois bien que tout chacun va nous tomber dessus, appuyé à la guélotte. Oui, mon vieux, tâche d'avoir l'œil. Mais tu sais, d'un autre côté, il est bien rare qu'un jeune chien, un chien de race, un chien qui a du feu, ne se mette pas, si on y prend garde, à courir après quelques bêtes. Les uns, c'est les chats. Ça n'a pas grande importance, parce qu'ils savent se défendre et peuvent grimper aux arbres. D'autres préfèrent les lapins et ils te nettoient les clapiers rasibus. D'autres se mettent aux moutons. Et ça, c'est plus dangereux, car quand ils sont bien décidés, ils peuvent t'en ficher par terre pour plus de 100 francs d'un seul coup. En somme, il vaut mieux encore qu'ils ne se tournent que sur les Gélines. Voici ce que je te conseille de faire. Comme on ne peut pas le laisser tout le jour enfermé, que ça le rendrait malade, comme d'un autre côté, quand on ne le surveille pas, il court sur la volaille. Tu n'as qu'à lui mettre une muselière lorsque tu voudras le lâcher. Léon ira demain à Vercelles. Dis-lui qu'il t'en prenne une près de Chacha, le brûlier. Pour une pièce de 40 sous, tu enverras les marionnettes. Et tu seras tranquille. Lasse, moi, 40 sous encore jetés loin pour cette charogne, rageait la guélotte furieuse, qui espérait une solution plus radicale et qui comptait sur l'appui de Philomène. Lisée se rendit au conseil de son ami. Et le surlendemain matin, après un jour de claustration préparatoire, on mit la muselière à Miro. Comme ce fut le maître qui opéra, il se laissa faire sans trop de résistance. Un peu ahuri toutefois de toutes ces courroies qui lui barraient le nez et lui sanglaient la gueule. Parce qu'elle sentait bon le cuir neuf, il essaya immédiatement de les mordre et ne put naturellement pas bouger les mâchoires. Lisée, alors, lui ouvrit la porte, pensant qu'il se précipiterait aussitôt dans la cour. Mais il n'essaya point de gagner le dehors. Quelque chose le préoccupait et le gênait. Il porta la patte à son nez et tâcha d'accrocher une courroie. Mais la griffe ne fit qu'érafler légèrement le cuir et retomba. Bien qu'il louchât affreusement, il ne pouvait se rendre compte de ce qu'il avait autour du museau et des bajoues. Mais il sentait bien au toucher que c'était quelque chose d'embarrassant et au nez que c'était une substance qu'il serait agréable de mastiquer avec les dents. Toutefois, l'impression de gêne domina bien vite tout le reste et il ne rêva bientôt plus qu'à faire sauter cette entrave agaçante. Il alla flatter Lisée et se frôler à lui, comme pour lui demander de vouloir bien retirer cet engin encombrant. Mais naturellement, Lisée n'accéda point à son désir. « Voilà ce que c'est, mon vieux, que de vouloir bouffer les poules. » Miro, qui ne comprenait point ou ne voulait point comprendre, se plaignit et pleura et cria. On le laissa crier et pleurer et se plaindre. C'est alors qu'il essaya par ses seuls moyens à lui de faire sauter la muselière. D'abord, il se gratta aux angles des buffets, aux embrasures des portes, au pied de la table, à toutes les arêtes vives. Il se cogna le nez, essaya encore de mordre, puis se remit à travailler de la patte, s'accroupissant à terre, le museau sur le sol, pour avoir un plus solide point d'appui, tirant, pleurant, frottant, s'excitant, s'énervant, hurlant, devenant comme fou de désespoir. À la fin, il se jeta sur le dos et de ses deux pattes de devant, se mit à se piocher les bajoues à une allure vertigineuse pour tâcher de faire sauter ou céder les terribles bandes de cuir qui lui lassaient si impitoyablement les mâchoires. En moins d'une heure, il se pela entièrement les deux côtés de la tête, si bien qu'en quelques endroits même, la peau était absolument à vif et ensanglantée. Il gratta plus haut à une autre lanière. Il grattait avec frénésie. Il aurait gratté encore si Lisée, qui rentrait, s'apercevant qu'il s'abîmait le portrait et craignant qu'il ne devînt fou, ne lui eût enlevé enfin sa muselière. « C'est assez pour aujourd'hui, » pensa-t-il. « Demain, je la lui remettrai et il s'habituera petit à petit. » Mais le jour suivant, dès qu'on lui eut rebouclé les courroies derrière la tête, il recommença de plus belle à se griffer la gueule, en hurlant. On ne pouvait évidemment le laisser ainsi. Il se serait plutôt saigné. Lisée, fort ennuyée, la lui retira tout à fait, en se disant « Bah, je reste ici aujourd'hui, je vais le surveiller. » Et il se mit à arracher les choux de son jardin, tandis que le chien rôdait autour de lui, heureux d'être enfin débarrassé et libre. Longtemps, il resta là, à gratter le sol, à mordre les tiges de pommes de terre, à transporter les bouts de perche de haricots, si bien que le braconnier, tranquillisé, ne pensait plus à s'assurer de sa présence et continuait paisiblement son travail en fumant sa pipe. Lorsque, telle une sorcière, la fémie apparut dans le sentier de l'enclos, une poule morte tuée d'une main, de l'autre, ramenant Miro qui tirait sur une ficelle. Cette fois, Lisée sentit la moutarde lui monter au nez. Il devint tout pâle, cassa le bout de sa pipe en serrant les dents et assura comme une massue dans sa main le chou qu'il venait d'arracher. La fémie eut peur. Elle se gardait bien de gueuler et de maudire. Et, devenue blême à son tour, elle balbutia, comme pour s'excuser, « Je te le ramène. Ce n'en est pas une des miennes. C'en est une de la cure. Nous l'avons vue quand il la serrait, la servante et moi, mais nous sommes arrivés trop tard. Elle m'a dit de te la porter pour que tu vois que tu le corriges. Je ne sais pas si on te la fera payer. Je te remercie, » proféra sèchement Lisée. Et, sans dire autre chose, attrapant le chien par le collier, lâchant son chou pour saisir de l'autre main la poule morte, avec cette cravache d'un nouveau genre, corps même du délit, il administra à Miro une volée fantastique et terrible, frappant d'ailleurs et prudemment aux bons endroits, de façon qu'il sentit bien, tout en ne courant aucun danger, que les coups venaient de la poule et qu'il serait dangereux pour sa peau à l'avenir de s'attaquer encore à ces bestioles-là. Mais quand il eut fait, ce ne fut pas tout. « Ah, cochon, tu aimes les poules. Eh bien, tu la traîneras, celle-ci. Tu la traîneras plus que tu ne voudras. Et puisque tu en aimes l'odeur, tu la sentiras aussi plus qu'à ton sou. Attends un peu. » Alors, au moyen d'une forte ficelle de chanvre, il noua la volaille sur le poitrail du chien, le cou entrant dans le collier, les pattes passant entre les jambes de devant. Il attacha ses pattes à une autre ficelle qui se nouait elle-même sur le dos. Et, dans cet appareil, condamna Miro, 3 jours durant au moins, à traîner la poule devant tout le monde et les autres chiens y compris lui, Lisée étant toujours présent pour lui faire honte et lui rappeler en grondant qu'il n'était qu'un méchant azor de rien du tout, un jean-foutre de Vios, qui ne valait pas la corde pour le pendre ou la cartouche pour l'oxyre, un sale salaud de... à qui il en ficherait jusqu'à ce qu'il en crève s'il s'avisait de recommencer jamais. 3 jours, comme il en avait été décidé, Miro en laisse et la poule en bandoulière, il dut suivre Lisée, à qui les gosses faisaient cortège, et qui ricanait en interpellant le chien. Miro était honteux, car les chiens connaissent la honte s'ils ignorent la pudeur, et ils sentent très bien la raillerie. Il baissait le nez, s'embarrassait dans les jambes du maître, regardait avec des yeux navrés, et quand il n'était pas observé, cherchait à se débarrasser de son encombrant fardeau. Mais il ne parvenait point à couper les ficelles, et s'enfonçant le nez dans la plume qui le chatouillait, il éternuait et il pleurait. Lisée fut inflexible. « Tu la traîneras, mon cochon, répétait-il, jusqu'à ce qu'elle pourrisse et qu'elle pue comme un vieux minster. Ça t'apprendra. C'est moi qui jugerai quand tu devras en avoir assez. » De dégoût pour la bestiole qu'il promenait toujours, comme un forçat traîne son boulet, agacé du contact, écœuré par l'odeur, Miro, pour ne point la toucher, marchait en écartant les pattes et pour ne pas la sentir, levait le nez en l'air, autant qu'il lui était possible de le faire. Le 4e matin, des griffes et des pattes, dans le mystère et le silence, il réussit, on ne sut jamais comment, à s'en dépêtrer enfin. Lisée, allant le prendre à sa remise, trouva dans un coin la poule intacte, aussi éloignée que possible du chien, qui jetait des regards inquiets, tantôt sur elle et tantôt sur son maître. Après qu'il se fut bien rendu compte qu'il n'y avait point mordu, le chasseur, revenu près de Miro, se laissa enfin émouvoir par le pauvre toutou qui se leva, hésitant et timidement, se hasarda à lécher les grosses mains rudes pendant le long des cuisses sur le pantalon de droguet. « Tu tâcheras de recommencer, proféra-t-il fortement, mais sans colère ni menace, en désignant la Géline d'un index sévère. » Et ce fut ainsi que la paix fut faite entre Lisée et Miro, et que ce dernier fut radicalement corrigé de la sotte manie de courir la poule, gibier qui était en effet bien indigne du nez fameux du célèbre chien de chasse qu'il devait être un jour.